Nous sommes en train de parler de la prospérité. Et notre verset de référence, c'est 3 Jean 2, je vous rappelle. Nous allons encore le lire. Parce que c'est une des fondations de nos enseignements ici sur la prospérité. Et dans 3 Jean 2, il est dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et on voit ici que Jean ne met pas seulement la prospérité sur l'aspect financier. Mais le verbe prospérer dans le grec, c'est faire un excellent voyage. Et ce que Dieu, c'est qu'on fasse un excellent voyage dans cette vie. Et là, nous avons une part de responsabilité immense. Donc, c'est ce que nous devons apprendre. Notre responsabilité. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont irresponsables. Ils reçoivent Jésus. Ils prient et ils se cachent derrière la prière. Quand Dieu dit « Faites ceci, faites cela », quand il dit ça dans sa parole, les chrétiens disent « Ah oui, mais je vais prier pour savoir si vraiment je dois le faire. » Souvent, les chrétiens se cherchent des excuses pour se déresponsabiliser. Si quelque chose ne marche pas dans nos vies, si on ne fait pas un bon voyage dans cette vie, nous en avons la responsabilité. C'est une très mauvaise nouvelle pour beaucoup de gens. Et pourtant, c'est une puissante vérité. Parce que du côté de Jésus, les choses sont faites. Maintenant, c'est à nous de savoir comment recevoir les choses du Seigneur et pleinement de prendre nos responsabilités de pratiquer la parole. Donc le désir de Dieu, c'est qu'on prospère à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Nous avons vu que nous ne sommes plus les propriétaires de nos vies, nous sommes les gestionnaires de nos vies. Et la Bible est claire, la Bible parle de la gestion, parle d'être gestionnaire, d'être manager. Je
ne
peux pas être le manager de ta vie, tu ne peux pas être le manager de ma vie. Chacun d'entre nous, nous devons prendre nos responsabilités devant notre marche avec Dieu. Nous avons des décisions à prendre. Nous avons des directions à prendre. Tout cela, ça forme notre destinée. Toutes ces décisions, c'est de notre ressort. Bien sûr, certains d'entre nous, nous aurons peut-être des meilleurs arrière-plans spirituels, moraux, etc. D'éducation. Et tout ça, ça va nous aider dans la vie. Mais d'où que tu sois, quel que soit ton passé, ça ne doit jamais déterminer ton futur. Ce qui doit déterminer ton futur, c'est la parole. Et ça, c'est quelque chose que tu dois savoir. Tu as peut-être des points forts dans ton passé, dans ta jeunesse, tout ça, c'est très bien, garde-les et renforce-les. Mais il y a des choses que tu connais ou que tu as reçues, d'autres que tu n'as pas reçues. Tu peux être très intelligent, mais au niveau spirituel, tu peux avoir des difficultés à avancer avec le Seigneur. Ou au contraire, tu peux avoir une intelligence assez limitée parce que tu n'as peut-être pas eu beaucoup d'éducation. Mais très sensible aux choses du Saint-Esprit. Les deux, s'ils ne se développent pas dans les domaines où ils sont faibles, ils échoueront. Et ça, c'est souvent le problème des chrétiens. Donc nous avons vu que nous avons tous une relation avec l'argent. Et que malheureusement l'argent est souvent vu avec les chrétiens quelque chose où il ne faut pas trop en parler, parce que tout de suite on montre les boucliers en disant: ah oui, moi je connais quelqu'un, c'était un bon chrétien, et le jour où il a eu de l'argent,
il a abandonné le Seigneur.
Kuko tangwe kuvuga iby'amafaranga abantu bacatanu bavuga ngo ndaza umuntu yari umukristo aciye bugufi amaze kuronka amafaranga acari yemera yanka n'ivyimana.
Oui, il y a des mauvais exemples.
Ego hari uburorero butari
bwiza. Oui, il y a des gens qui ont fait certaines choses et qui après ont été des contre-témoignages.
Ego hari abantu bakoze ibintu maze ntibashingira intahe nziza
Kristo. Mais c'est pas sur ça que tu dois déterminer tes directions.
Ariko si byo twubakira ko si byo tugenderako.
Ta direction doit être déterminée avec la parole de Dieu.
Ibyo twubakira ko ni ijambo ry'Imana.
Qu'est-ce que dit la parole? Quels sont les gens qui ont réussi dans le Seigneur? C'est ces gens-là qui nous intéressent. Dans la parole et dans la vie de tous les jours. Donc, cette relation avec l'argent, nous l'avons tous. Tu dépenses de l'argent, tu dois apprendre à gagner de l'argent, tu dois gagner de l'argent. Dieu nous appelle à la productivité, non pas à la stérilité financière. L'important, c'est d'avoir la mentalité de Dieu. Dieu veut des chrétiens extrêmement riches, je tiens à vous le dire. Dieu veut des gros businessmen qui sont capables de financer le royaume de Dieu et qui comprennent la mentalité du royaume. Vous savez, un ministère, par exemple, comme Billy Graham, qui a amené je ne sais combien de millions de personnes au Seigneur, peut-être même des dizaines de millions, certainement. Il y en a qui disent plus, mais je suis très prudent avec les chiffres. Entre les gens qui s'approchent et les gens qui réellement donnent leur vie à Jésus. Mais en tout cas, il y a eu un impact énorme. Pendant plus de 50 ans. Cet évangéliste américain, il a un board, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des gens qui sont dans son association. Et principalement, ce sont de très gros milliardaires américains, chrétiens. Et c'est eux qui financent l'évangile. Donc l'argent est un instrument extraordinaire. Quand il est dans de bonnes mains. Maintenant, c'est un instrument épouvantable. De destruction, de meurtre, de toutes les choses les plus horribles qu'on peut voir sur la terre, d'injustice, de tout ce que vous voulez, de péché, de tout ce que vous voulez, à partir du moment où c'est dans de mauvaises mains. Donc le tout, c'est de comprendre qu'il faut que ce soit dans les bonnes mains avec les bonnes mentalités. Mais dans la Bible, il est rapporté un certain nombre de gens qui avaient beaucoup de finances. Et que Dieu avait béni d'une façon particulière. Et ça fait partie de notre héritage et de nos promesses. Et sachez une chose, quand l'Église a des sous, et que c'est dans de bonnes mains, elle peut avoir un impact qu'elle n'aura jamais. Au XXe siècle, le pays numéro 1 qui a financé l'Évangile dans le monde, c'est les États-Unis. C'est en train de changer. Mais au XXe siècle, ce pays a été tellement prospère et a vu tellement de chrétiens prospères qu'ils étaient le premier financier de l'évangile dans le monde entier. La plupart des pays qui, dans la deuxième moitié du XXe siècle, ont été impactés par l'Évangile, il y avait quasiment partout une semence à partir des États-Unis. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc que cela nous parle, c'est vrai que les temps changent. Nous ne sommes plus dans les temps missionnaires où l'évangile n'avait pas été prêché sur toute la terre. Aujourd'hui, tous les pays ont été touchés d'une manière générale. Maintenant, c'est à chaque nation de se prendre en charge, de créer ses propres richesses. Et aujourd'hui, de toute façon, parce que d'abord, nous avons la parole et que les mentalités doivent changer. N'importe où sur la terre, l'argent ne devrait pas être un problème pour l'Église de Dieu. Donc, pour les chrétiens. Maintenant, tout dépend de la vision que nous en avons. Nous avons vu qu'il y a 5 piliers importants pour la prospérité. Le premier, c'est la connaissance de la parole. Savoir la volonté de Dieu pour nos finances. Savoir que Dieu veut nous bénir financièrement. Savoir que Dieu veut nous faire prospérer financièrement. Qu'est-ce que ça veut dire la prospérité? Savoir que Jésus nous a rachetés de la pauvreté. Connaître vraiment toute cette volonté bonté de Dieu pour nous. Ensuite, nous avons vu que le deuxième pilier, c'est la semence. Apprendre à donner au Seigneur. Donner nos dîmes, donner des offrandes. Quand vraiment le Seigneur nous montre quelque chose de spécifique. Faire quelque chose, des vœux à Dieu parfois. Et en fait, tout ça, c'est bon, c'est vraiment une loi importante. Ça s'appelle la loi de semer et de récolter. Et notre prospérité est fondée en grande partie sur cette loi-là. Où il faut apprendre à semer nos finances. La Bible est très claire là-dessus.
Hein.
Et quand on le fait, obligatoirement, nous allons récolter. Mais nous avons vu aussi qu'entre semer et récolter, il y a un temps. Il y a aussi un élément de foi, bien sûr. Mais que quand quelqu'un apprend à faire ça, et que vraiment il le fait avec un cœur sincère, un cœur joyeux, obligatoirement, Dieu va agir. Parce qu'il est en train de libérer une loi du royaume de Dieu. Et une des lois qui est très importante dans le royaume de Dieu, c'est de semer. On peut semer nos finances, on peut semer nos paroles, on peut semer nos actions, on peut semer notre vie. Il y a beaucoup de choses qu'on sème.
Notre
vie entière. Les actions, etc. Ensuite, nous avons vu qu'il faut aussi avoir un élément de foi. La foi va commencer d'abord par se fixer des objectifs financiers. À court, moyen et long terme. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Et aussi, donc, de parler notre foi. Les gens qui n'arrêtent pas de parler le manque, la pauvreté, les difficultés financières. Ce sont des gens qui sont dans des mentalités qui les ramènera toujours plus bas. Je m'en sors pas, je sais pas quoi faire, c'est difficile.
Non,
apprends à semer et à te taire sur le négatif et à parler la parole de Dieu. C'est là où tu vas voir le fruit. Les gens qui n'arrêtent pas de parler le manque, la pauvreté, les difficultés financières, les conjonctures économiques, ce sont des gens qui ne verront jamais aucun changement. Parce qu'une semence a besoin d'être arrosée. C'est pour ça que tu ne dois pas proclamer tes circonstances, tu dois proclamer la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors que tu es dans un moment difficile. Je vous rappelle que la foi, ce n'est pas quand on a les poches remplies qu'on peut commencer à dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est simplement louer Dieu, dire Seigneur, merci parce que tu pourvois largement mes besoins, ce qui est bien.
Et
il y a l'autre aspect à ce moment-là de la foi que tu vas utiliser.
C'est
d'avoir une vision d'aller beaucoup plus haut. Parce que je vous rappelle que la foi est à la fois c'est à la fois défensif et offensif. La foi, tu la proclames contre les mauvaises circonstances. Mais aussi la foi, tu proclames les choses comme si elles étaient, c'est-à-dire tu commences à ouvrir ta destinée. Ensuite, nous avons vu le quatrième pilier qui est le travail. La valeur au travail. Et ça, c'est extrêmement important aussi. La Bible est claire, nous avons lu plein de proverbes qui montrent que celui qui est fainéant ou celui qui est médiocre, qui a une mentalité de médiocrité, eh bien, il ne pourra jamais prospérer.
Et
nous avons vu des exemples dans la Bible comme Joseph, des exemples comme Daniel, le prophète. Parce que souvent, c'est une excuse que les gens donnent. Ils disent, oui, moi je ne suis qu'un petit employé, je suis mal payé, donc je fais mal mon boulot.
Crois-moi,
avec ce genre de mentalité, tu seras toujours mal payé et tu auras toujours un petit boulot.
Ariko nimba wiyumvira gucyo usanga biguma bimeze nabo kagumuhembwa nabi kandi kagumuma muri ako kazi hindura ibyiyumviro.
Rappelle que Joseph même quand lui qui était fils d'un prince.
Reka ndakwibutsa Yosefu yari umwana.
Alors qu'il était esclave et qu'il devait nettoyer par terre.
Yari umwana w'umutware bamugira umuja akubura hasi.
Dans avec la vie de Joseph, vous ne l'entendrez jamais, jamais nous voyons dans la vie de Joseph qu'il s'est plaint une seule fois.
Na namubona muri Bibiliya hose batwereka ko yoba yari idoze n'umunsi wa rimwe.
Et je vous garantis, il y a une qualité, il y a une excellence. L'excellence commence par une mentalité. Et quand Dieu voit quelqu'un qui a une mentalité d'excellence, c'est là où il va ouvrir les portes de sa promotion. Et malheureusement, les gens souvent sont dans la médiocrité, ils se contentent de la médiocrité.
Et c'est
une catastrophe. Ensuite, nous avons vu qu'il y a un certain nombre de travers aussi à propos des mentalités. On a parlé de l'avidité. Des gens qui veulent quelque chose à tout prix et qui sont prêts à faire n'importe quoi pour l'avoir. Puis nous avons eu aussi la naïveté. Des gens qui se font rouler bêtement. Parce que finalement, ils sont chrétiens. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui est gentil.
Et
c'est quelqu'un qu'on peut rouler facilement. Aussi. Et il faut pas être stupide, frères et sœurs. Parce que parfois on s'est fait rouler parce qu'on avait une bonne tête de bon petit chrétien.
Et
on s'est trouvé dans des difficultés à cause d'autres personnes. Vous savez, il y a pas mal de gens qui se retrouvent en difficulté financière à cause d'autres personnes. Alors, la cinquième chose que nous sommes en train de voir, c'est la gestion. Je ne suis pas un grand gestionnaire avec de grands chiffres et des grandes organisations. Mais j'ai appris un certain nombre de choses dans la vie et d'ailleurs, je les ai apprises d'une façon très difficile en général. Parfois, vous savez, quand on fait de très mauvaises expériences, on doit apprendre des leçons. Et parfois, on en fait souvent, on répète certaines expériences dans notre vie qui sont douloureuses. Et après, on finit par comprendre certaines leçons. Alors, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2, elle nous dit, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, là il parle, c'est vrai, des serviteurs de Dieu, et des administrateurs des mystères de Dieu, du reste, ce qu'on demande à des administrateurs, c'est que chacun se trouve fidèle.
Alors,
on a regardé que, en fait, ici, l'administration, administrateur, c'est être gestionnaire.
Et
on a vu que la gestion, c'est l'ensemble de techniques d'organisation.
Et
pourquoi? Pour arriver à des résultats satisfaisants. Nous avons vu que dans notre prospérité, il y a la gestion du temps. C'est la première chose que nous avons vue. Et je vous ai montré qu'à partir du moment où vous gérez mal vos priorités, donc votre temps, vous ne pourrez pas prospérer. Vous avez un capital qui est le temps. Chaque jour, il y a 24 heures, on a exactement le même nombre d'heures. Chaque être humain a le même nombre d'heures sur cette terre, chaque
jour.
Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et vous savez, le plus difficile, en tout cas, ceux pour qui c'est le plus difficile de gérer leur temps, ce sont les chefs d'entreprise. Ce sont les gens qui ont des petits business indépendants. Ce sont aussi les pasteurs, par exemple.
Hein.
Ou des gens qui sont dans le ministère.
Hein.
Parce que tous ces gens-là peuvent gérer leur temps comme ils veulent. Vous savez, un patron, s'il n'a pas envie d'aller au boulot le matin, il n'y va pas. Il a trois coups de fil à donner en disant « Vous ferez ça aujourd'hui » et puis c'est fini.
Il a fait 5 kinu, il a yoboye,
Sauf que s'il le fait trop souvent, au bout d'un moment, sa société va couler. Donc nous avons tous un capital de temps, il faut apprendre à le faire fructifier. Et nous devons faire attention à nos priorités. Et je vais pas revenir sur les différents points que nous avons vus à propos de la gestion de nos priorités au niveau du temps. Mais sachez que si vous voulez prospérer, il faut que vous appreniez à gérer votre temps.
Si vous
occupez de futilités, de choses qui ne servent à rien, qui sont improductives tout le temps, des choses qui bouffent votre temps, des gens qui viennent interférer et qui bouffent votre temps, vous ne pourrez jamais vous concentrer sur l'important et sur l'investissement à moyen terme et long terme. Vous allez vous retrouver avec pas mal de problèmes. Et les années vont passer. Et vous allez vous apercevoir que vous n'avez rien produit ou très peu produit. Donc c'est important de gérer correctement son temps. Alors, nous en étions dans la gestion de l'argent. Et je vous ai montré que la Bible nous parle de planification. Il y a trop de gens qui pensent que parce qu'on est, on est chrétien, on marche par l'esprit. Oui, mais tu vas savoir que ton banquier ne marche pas par l'esprit. Et lui, souvent, il n'a pas la foi. Il a besoin de chiffres et il a besoin aussi de planification. Tu vas t'apercevoir que dans cette vie, la planification financière est quelque chose qui est important. Et la majorité d'entre nous, nous n'avons jamais eu aucun cours de gestion de vie pratique. Et malheureusement, souvent, on se retrouve avec beaucoup de problèmes. La vie passant, on se marie, on a des enfants, ils grandissent, etc. Et ça passe. Et puis 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, on se dit, ah, qu'est-ce qu'on a fait?
Wow,
maintenant ça coûte tellement cher. C'est tellement difficile. Je vous ai montré qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la retraite et qui dépendent de leurs enfants parce qu'ils n'ont même pas de quoi se soutenir financièrement.
Et
le jour où tu n'es plus vraiment en état de travailler, ça
ne
s'est pas passé en deux jours.
Tu as
passé des décades et des décades, donc des dizaines et des dizaines d'années, à avoir un temps de productivité dans ta vie. Et normalement, quand tu vas arriver vers ta retraite,
eh
bien, tu dois vivre de ta productivité. Mais je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent parce qu'ils n'ont pas de revenus suffisant quand ils sont à la retraite dans le monde entier. Je ne parle pas ici seulement en Afrique, loin de là. Il y a des gens en Europe, il y a des gens aux États-Unis, il y a des gens un peu partout dans le monde, en Asie, qui dépendent, des gens qui sont âgés, qui dépendent de leurs enfants pour les nourrir et pour les loger. Donc évidemment, il va falloir planifier les choses. Tu es jeune, tu démarres dans la vie. Tu n'auras pas le meilleur travail au départ, le mieux rémunéré, c'est normal. Parce que tu peux avoir un diplôme d'ingénieur, tu peux avoir un doctorat, tu peux avoir plein de choses. Plein de diplômes.
Ce
n'est pas forcément ça qui donnera au départ le meilleur boulot. Je vous ai montré que la plupart des gens qui ont des diplômes ne travaillent même pas dans le domaine dans lequel ils ont étudié. L'éducation est importante. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste. Mais l'éducation n'assure pas un excellent job, forcément. Je vous ai dit que la plupart des grands milliardaires de ce monde ont une bonne partie ont peu d'éducation. Ce sont des gens, souvent, qui n'ont même pas une licence. Certains n'ont même pas les humanités, pour vous dire. Mais ils ont su y faire, ils ont su produire de l'argent. Alors maintenant, nous allons voir du côté de nos recettes. Proverbe 13, verset 11. Parce qu'il va falloir que vous appreniez à planifier dans votre vie au niveau de vos rentrées.
Il
y a des choses qu'on doit faire dans notre vie, prévoir. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie, je dirais, de notre vie de chrétien. Maintenant, il y a une base, vous voyez, il y a un équilibre entre les deux. Il y a un équilibre entre la vie de l'esprit
et
le bon sens de tous les jours. Planifier n'est pas du tout anti-spirituel. Maintenant, bien sûr, le Saint-Esprit pourra te montrer parfois certaines choses dans ta vie, certaines étapes.
Proverbes
13, verset 11 nous dit « Les biens mal acquis diminuent, mais celui qui amasse peu à peu les augmente. »
Ubutunzi buronkeshejwe amagambo atagira ikimazi bugenda buyoka ariko urundanya yitonze azokunguka.
Alors, il faut savoir une chose. Ici, le fait des biens mal acquis, c'est pas forcément des gens qui ont volé.
Ahanya bavuze ngo ubutunzi buronkeshejwe bavuga ngo amagambo atagira ikimazi.
C'est pas forcément le sens de ce proverbe.
Asiko yisobanura neza
ariko asobanura. Parce qu'en parallèle, il nous parle d'augmenter peu à peu.
Baratubwira ngo ariko urundanya yitonze azokunguka.
En fait, ce serait un peu mieux, d'interpréter ce proverbe de la façon suivante. C'est des biens qui sont acquis trop rapidement, d'un seul coup, par exemple. Souvent, en fait, on n'ira pas loin avec ça. Par contre, quand on apprend à se créer des richesses, étape après étape, ça nous permet aussi d'acquérir de la sagesse et d'aller plus haut en étant stable. Parce que quand tu as 20 ans, si tu as un paquet de richesses, par exemple, hérité de tes parents, très souvent, tu ne vas pas savoir quoi en faire. D'un seul coup, tu te retrouves, boum, avec un bel héritage dans ta poche. Parce que tes parents sont décédés, donc d'un seul coup, tu hérites. La première chose qu'un jeune de 20 ans, s'il a beaucoup d'argent qu'il n'a pas gagné lui-même, va vouloir s'acheter. C'est une belle Mercedes décapotable pour montrer partout qu'il est riche. Il va vouloir se montrer.
Et
il va dépenser parce qu'il n'aura pas travaillé pour acquérir ça. Alors, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne bien. En tout cas, que je vois. Vous savez, dans beaucoup de sociétés du monde, les économies bougent beaucoup. Par exemple, en France, il y a des gens qui ont cotisé à la retraite pendant des dizaines et des dizaines d'années.
On
est en train de leur dire actuellement, vous savez, vos retraites, vous ne les verrez jamais. C'est en train de faire du sérieux remous, mais il y a des gens qui, pendant des dizaines et des dizaines d'années, on aura retiré de l'argent sur leur salaire et pas les petites sommes.
Mais
ça a été bouffé par des caisses de retraite. Et ces gens-là ont commencé à leur dire, vous savez, il faut que vous travailliez plus d'années maintenant parce que vous n'aurez pas votre retraite comme prévu. Bon, ici, par exemple, les fonctionnaires qui spéculaient sur des retraites, les fonctionnaires des années 90, là, pouvaient avoir un salaire honorable à l'époque, peut-être
200-300 000 francs.
Est-ce que c'était des bons salaires à l'époque?
Et
aujourd'hui, leur retraite va être minable. Parce qu'il y a eu les dévaluations. Parce qu'il y a eu tout un tas de problèmes économiques. Donc, la meilleure des idées, et ça j'aimerais que ça rentre bien dans vous, c'est qu'il faut que vous appreniez à vous créer une diversité de piliers financiers. Ça, c'est quelque chose, ça se médite, ça se planifie. Vous savez, souvent, le schéma qu'on va donner, on va dire, ayez un bon boulot, faites tout pour avoir un bon boulot bien payé, et vous allez vivre de ce boulot. Oui et non.
ariko kandi oya.
Si tu marches avec ce genre de mentalité toute ta vie,
tu
risques de te retrouver dans des obstacles. Un de ces obstacles, c'est la fluctuation de l'économie. Par exemple, moi j'ai étudié l'électronique il y a très longtemps. Et dans l'électronique, à l'époque en France, il y avait du travail.
Je n'ai
jamais vraiment travaillé dans le secteur de l'électronique. J'ai plutôt travaillé dans le secteur de l'enseignement au niveau de l'électricité et puis un petit peu de l'électronique. Mais je savais pertinemment que quelques années plus tard, il n'y aurait pas de boulot dans le domaine. Effectivement, il y avait des ingénieurs en électronique qui, quelques années plus tard, alors qu'on leur avait fait miroiter des belles professions, qui se sont retrouvés complètement au chômage et complètement dépassés. Pourquoi ? Parce que c'était un secteur qui était complètement repris par l'Asie à cette époque-là. Et on
ne
cherchait pas d'ingénieurs en électronique en Europe. C'était fini. Et je pourrais vous donner exemple sur exemple dans l'informatique, par exemple. Il y a des gens à qui on a fait étudier des trucs, des programmations, des histoires qui ont étudié ça pendant des années, des années. Je me souviens d'un ami chrétien comme ça qui était un spécialiste dans son langage de programmation. C'était un ingénieur. Le type, il était capable de vous faire des programmes dans son langage absolument super. Le problème, c'est qu'il y avait une telle évolution qu'on n'avait plus besoin de lui après. Et il s'est retrouvé au chômage pendant des années, des années, des années. Pourtant, à l'époque, je dirais quelques années avant où ça se passe, c'était des gens qui étaient ultra bien payés, qui avaient de très belles professions dans le domaine de l'informatique. Et ce secteur-là de la programmation spécifique dans le langage où il était, il n'y avait pas de boulot. Il n'y a plus de boulot, d'ailleurs, depuis des années. Donc, une des erreurs classiques au niveau de la planification, c'est des gens qui veulent dépendre d'un salaire. Uniquement. Donc ils se bâtissent une carrière
hein,
avec une mentalité « je veux faire carrière dans le domaine ». Je tiens à vous dire, c'est prendre beaucoup de risques à long terme. Il y a certains secteurs où ça marche bien, mais la plupart du temps, les gens qui ont ce genre de mentalité se retrouvent par terre. Parce qu'il suffit qu'il y ait une crise économique dans le secteur dans lequel ils sont spécialisés, qu'ils ne vivent que de ça, qu'ils dépassent les 30, 35, 40 ans, crise dans le secteur économique, on va mettre tout le monde dehors. Et ces gens-là qui vont avoir une quarantaine d'années pour aller retrouver du boulot après ou se recycler, bon courage. Et ça, c'est un problème qu'on voit beaucoup. Donc, le meilleur, bien sûr, dans la vie, il faut démarrer avec quelque chose. Et si vous démarrez avec un travail qui est bien payé ou assez rapidement bien payé, ne faites pas l'erreur de faire tout sortir ce que vous gagnez. Parce que ça, c'est ce qu'on voit. Et vous savez, ici, nous savons qu'il y a beaucoup de précarité au niveau du travail. Certaines personnes, on leur donne des contrats qui vont durer 2 ans, ils vont avoir un très bon salaire pendant 2 ans. Ils vont être pris dans une organisation internationale ou un truc ou un machin qui va très bien payer. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'au bout des 2 ans, il va rester ça. Pendant les 2 ans, il y aura une très belle vie. Il y avait un bon salaire. On a changé de maison. On a commencé à faire des belles dépenses. On a sorti tout ce qu'on pouvait montrer. On s'est acheté toutes sortes de trucs. Le problème, c'est qu'une fois que le contrat s'arrête, on se retrouve par terre. Si on n'a pas mis d'argent de côté. Vous voyez, ça c'est des gens qui veulent une source financière. C'est comme quelqu'un qui parfois a un certain capital.
Mais umutahe,
et il veut faire certains types de commerce,
agomba kugira ibyo adandaje,
et il met tout ce qu'il a dans une affaire.
Agacafata ibyo afise byose akabishira ahantu hamwe.
Si tu mets tout dans une affaire,
ufashe byose ukabishira mu kintu
kimwe, si ça marche, ça va.
Bigenze neza sawa.
Si ça plante,
bigenze nabi.
Tu te retrouves avec plus rien.
Usanga atana kimusigaranye.
En français, on appelle ça mettre tous ses œufs dans le même panier.
Urumva.
Je ne sais pas si tu as une expression équivalente, c'est-à-dire que tu mets tout dans un seul
panier.
Ça veut dire qu'en fait, ton idée, c'est que tu te focalises seulement sur une chose. Ça peut être un travail,
où
tu dis, je vais retirer des ressources que de ce travail-là, et je ne dépends que de ça. Ou ça peut être un type de business que tu veux faire,
et
tu ne fais que ça, et tu as tout mis ce que tu as là-dedans. Et tu as fait des dettes. Et là, crois-moi, si ton truc ne marche pas, tu vas pleurer et tu vas te mettre à genoux devant le Seigneur. Parce que tu as manqué de sagesse. Donc déjà, ayez une perspective. De créer diverses choses.
Alors
vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas facile. Ok, on va essayer de discuter de certaines choses. Avoir un travail bien rémunéré et se faire un profil de carrière, c'est une bonne chose.
Tu commences
dans un secteur parce que
tu as
relativement étudié dans ce secteur-là. Tu es sérieux, tu es excellent. Tu t'arranges aussi pour peut-être parfaire tes études. Parfois, il y a certains endroits, vous avez une licence, on vous donne tel salaire. Dans la même organisation, si vous avez une maîtrise, vous allez toucher peut-être
30-50%
plus. Ça, c'est une bonne chose. Continuez à vous former professionnellement. Et à côté de ça, commencez à réfléchir sur d'autres activités génératrices de revenus. Et là, par contre, il va falloir que vous soyez très, très sages. Pourquoi ? Parce que là, il y a beaucoup plus de risques. Parce que si vous êtes dans une activité professionnelle, vous
ne
pouvez pas gérer deux, trois trucs en même temps alors que vous avez une activité professionnelle.
Donc, tout ce
que vous allez faire en dehors va comporter un certain nombre de risques. Dans lesquels il faut, je dirais, être averti. Parce que ça va être des activités secondaires qui peuvent être très lucratives, mais il faut qu'elles doivent être faites intelligemment. Ne pensez pas que parce que vous avez... En fait, ne pas avoir d'argent est un problème. Mais avoir une certaine somme d'argent dont on ne sait pas quoi faire est un autre problème. Si
tu as
par exemple, je sais pas, 20 ou 30 millions de côté, parce que tu as bien travaillé, tu as mis ça de côté, la question est de te dire, j'arrive donc à mettre des sous de côté. On va parler dépenses et recettes et dépenses là un peu plus tard, la balance entre les deux.
Donc,
ça veut dire que tu peux planifier des choses si tu arrives à mettre des sous de côté. Maintenant, il faut que tu sois intelligent. Parce que c'est sûr que si tu n'arrives pas à mettre d'argent de côté, ne pense pas aller voir ton banquier pour lui dire j'ai besoin d'un prêt parce que j'ai un projet. Parce que le banquier intelligent il dira, monsieur, tout ce qui rentre sort, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de mettre de l'argent de côté.
Donc
tu peux rien projeter supplémentaire sans risque. Donc si tu as un bon salaire ou si tu as un certain salaire, apprends à mettre des sous de côté.
Mais
cet argent, il va falloir qu'un jour tu saches le gérer quand on a suffisamment. Alors, il y a différentes choses qui sont intéressantes à faire et qui ne prennent pas forcément beaucoup de temps.
Et
il y a des choses qu'il faut enlever de nos têtes. Qui sont très classiques ici. D'abord, sachez une chose. Si vous avez quelqu'un qui vient vous voir en disant j'aimerais faire un projet.
Parce qu'il
sait que vous avez des sous. Faites très attention.
Il
vous dira, oui, je vais gérer tout ça.
Mais c'est
toi qui mets les sous.
Tout
ce que, là où tu n'as pas une, un œil très sérieux et régulier, ne fonctionnera pas.
Et ça,
c'est souvent ce qu'on voit ici.
Des
gens qui ont toujours des grandes idées,
qui viennent
vous voir et qui veulent faire un projet soi-disant qui va vous rapporter à vous.
Ou alors,
vous-même, vous voulez placer quelqu'un qui va gérer tout de A jusqu'à Z.
Si tu gères
quelque chose qui marche bien,
et
que tu le donnes à quelqu'un à gérer,
la
plupart du temps, il va ruiner ton projet. Et ça, on le voit beaucoup.
Donc
c'est vraiment le genre de choses à
éviter.
Alors, il y a quand même des choses qui sont intéressantes à faire.
Il y a
quand même des endroits où on peut faire des placements financiers qui peuvent être
intéressants.
La construction immobilière est quelque chose de très intéressant et qui va devenir de plus en plus intéressant ici.
Ça,
bien sûr, je parle des gens qui ont quand même pas mal de sous. Et si vous avez pas mal de sous, investissez dans l'immobilier ici, ça va exploser, dans le bon sens du terme. Mais là aussi, il faut être intelligent.
Il ne
faut pas faire n'importe quoi.
Il
y a beaucoup de choses dans la promotion immobilière qui n'a pas été faite ici. Particulièrement, il y a beaucoup de gens. La société évolue beaucoup. L'économie évolue et la société évolue. Actuellement, par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent vivre seuls en tant que célibataires. Qui ont un certain potentiel financier.
Et
qui diraient, moi, j'aimerais bien louer quelque chose, mais je n'ai pas envie de louer une maison.
Mais
j'ai plus besoin de vivre chez mes parents, j'ai envie de vivre seul. Je sais que dans les familles burundaises, ça crée beaucoup d'histoires. Mais je suis désolé, la société évolue.
Il
y a de plus en plus de gens qui veulent vivre tranquillement chez eux, qui
ne
sont pas encore mariés.
Et
ça peut être une bonne étape aussi. Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans la promotion immobilière.
C'est
pas toujours facile à faire seul, bien sûr, parce que ça demande beaucoup de moyens.
Mais
des fois, on peut commencer avec des choses simples. Même si vous êtes dans un quartier, réfléchissez.
Ce
n'est pas la peine de se dire forcément, il faut que je sois dans un truc ultra chic où je dois avoir des centaines de millions pour faire de la promotion
immobilière.
Tu peux très bien commencer dans des quartiers qui ne sont pas très riches et que ça marche très bien. Maintenant, il faut que tu sois sage aussi sur les choses que tu veux faire. Alors, il y a des placements aussi dans certaines banques.
Nous,
ici à l'église, pendant une période, nous avons gagné pas mal d'argent à placer de l'argent parce que les taux d'intérêt sont très forts au niveau de la rémunération. Le seul risque qu'il y a, c'est évidemment les dévaluations. Mais nous avons eu des périodes ici à l'église où on a gagné des millions et des millions parce qu'on avait des placements pendant plusieurs mois.
Et on
avait juste des placements jusqu'à 11, voire on avait réussi à avoir du 12% pendant une période. Maintenant, ce n'est plus le cas, bien sûr, ça a beaucoup baissé.
Mais c'est
énorme comme rémunération, alors que vous laissez, vous déposez de l'argent dans une banque, c'est bloqué.
Mais
ça peut rapporter et sans prendre de risque. Bien sûr, choisissez bien votre banque. Je ne ferai pas de publicité. Mais là, soyez prudents, surtout dans les banques privées où vous entendez des bruits, faites attention, écartez-vous de celle-là. Bon, il faut savoir, certains d'entre vous aussi, qu'il y a des placements dans des bourses internationales qui sont faciles à faire. Il suffit de se renseigner. Avec Internet, on peut faire des placements. À partir du moment, bien sûr, on a un compte à l'étranger. Mais certains d'entre vous, c'est votre cas.
Et
là aussi, par contre, il faut quand même faire des formations sérieuses. On
ne
se lance pas dans ce genre de truc n'importe comment. Bon, il y a d'autres choses qui marchent bien. Par exemple, si vous avez un bon boulot, mais que vous, pendant vos congés, c'est l'achat et la vente de certaines marchandises à certains moments de l'année. Donc ça aussi, parfois, ça peut être très utile. Il y a des gens qui ont fait fortune en important des cahiers au bon moment avant la rentrée scolaire.
Bon,
il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire comme cela d'une façon, ce qu'on appelle sporadique, c'est-à-dire vous faites ça une fois, deux fois par an, et ça peut vous rapporter gros. Aujourd'hui, il y a quand même au niveau de l'importation, un aspect, la Chine s'ouvre et la Chine est très intéressante, mais là encore, il faut pas y aller une seule fois. Il faut y aller, il faut avoir des conseillers, il faut avoir un certain nombre de gens qui vous aident. Mais il peut y avoir aussi des choses très locales ici même de l'intérieur du pays. Le tout, c'est de ressentir les choses. Donc là, tout ça, ce sont des activités secondaires, tertiaires, où vous devez faire attention. Sachez que dans l'immobilier, ce qui rapporte le plus, ce sont les petites surfaces. C'est-à-dire, si vous louez une grande maison, ça vous rapportera moins que si vous avez fait X appartements dedans. Alors, les activités secondaires, là où il ne faut jamais mettre son argent, c'est les fameux investissements, entre guillemets, de gens qui viennent vous voir et qui vous diront, franchement, mets de l'argent là, demain tu auras le double ou tu auras le triple.
Ça
n'existe que dans les films. D'accord, vous perdrez votre argent. Surtout si vous avez des gens qui vous font des pressions dans ce genre de choses, débarrassez-vous de ça rapidement. On va parler des prêts un peu plus tard. Mais si vous voulez des ennuis, prêtez de l'argent à des gens. Si vous êtes sûr d'avoir des ennuis,
c'est
obligatoire. C'est une source de conflits gigantesques entre les gens. Et il faut vraiment ne pas faire ça. Il y a trop de gens qui n'honorent pas leurs paroles. Trop de gens qui montent des espèces de projets bizarres où ils vous demandent de mettre tout l'argent et eux, ils vont tout faire pour vous. Et ça, c'est une grave erreur qu'on peut voir. Alors évidemment, dans notre vie, il y a des ressources. Il faut apprendre à diversifier. Alors, s'il vous plaît, arrêtez aussi les histoires de vous voyez, de taximoto, parce que vous voyez, aujourd'hui, le taximoto ne rapporte plus rien. Les équations bidons, vous savez, le gars, il dit, j'achète mon taximoto 1 700 000, ou je ne sais plus combien c'est maintenant, ça peut-être spéculé, je ne sais plus. Ça me coûte tant pour le mettre en marche, tant d'assurance, tant de machin, et tous les jours, ça va me rapporter ça, et au bout de 6 mois, je vais payer mon taximoto. Non, tu ne vas pas payer ton taximoto, tu verras que ton taximoto, il est complètement foutu au bout de 6 mois. Et si tu dépasses les 6 mois, tu auras de la chance.
Kandi rero ubwo yavyo guharura ngo nzotanga ya ngo azokwinjiza ya kumunsi kumunsi hama ku kwezi nzoba mfisa yane na muhemba nka yaharura yose nka yakuramwo ngo amezi atandatu aheza ni nayigurisha ndoca nungukaya kenshi usanga utungutse byo kuri.
Ça, ce sont des projets naïfs.
Ni ivyiyumviro bitakicunguka.
C'est juste quelqu'un qui calcule comme ça, il dit ça va me rapporter tant.
Et
il a pas du tout considéré ni les risques, ni tout l'entretien, ni le mauvais chauffeur qui va récupérer quelque part, qui va d'ailleurs le voler aussi.
Enfin,
ce genre de truc, vous voyez, c'est vraiment le projet type qui marche jamais. Si vous n'êtes pas là et que vous serrez, c'est vraiment très compliqué à gérer ça. Alors dans les dépenses, on va regarder un peu les dépenses. Vous savez, dans nos dépenses, il y a 5 catégories. au niveau des priorités. Il y a l'indispensable. Il y a le nécessaire. Il y a l'utile. Il y a ce qui est agréable. Ce qui nous fait plaisir. Et puis il y a le superflu. Et dans, ça, c'est ce qu'on peut, comme ça qu'on peut catégoriser nos dépenses, c'est-à-dire indispensable, ce qui va être indispensable. Et vous avez, un être humain a besoin d'un certain nombre de choses dans sa vie pour être sécurisé.
Avant,
nous allons voir qu'un toit, c'est quelque chose qui est indispensable pour la sécurisation d'un être humain. Et parfois, je vois des gens quand ils sont en difficulté financière, la première chose qu'ils ne payent pas, c'est leur loyer. Et à chaque fois qu'ils font ça, c'est un gouffre dans lequel ils s'enfoncent. Il y a des choses qui sont nécessaires. Et nécessaire, c'est bon, il nous les faut, c'est une nécessité. On
ne
peut pas passer à côté. Il y a des choses qui sont utiles. Mais quand on a besoin de se serrer la ceinture, on peut réduire ce genre de budget. Il y a des choses qui sont agréables, mais pour que se payer des choses agréables, eh bien, il faut ce qu'on appelle avoir du cash flow, c'est-à-dire avoir de l'argent supplémentaire régulièrement dans nos vies. C'est-à-dire, tu produis plus que ce que tu ne dépenses, donc il va te rester quelque chose. Et puis quand tu es très riche, tu peux te permettre le superflu. Tu dis, j'ai une voiture, mais j'en ai envie d'une deuxième parce que j'ai envie de conduire une plus petite voiture parce que je me faufile mieux dans le trafic. C'est pas un problème. Si tu as 3 ou 4 maisons, tu dis, tiens, je vais en acheter une autre parce que j'ai des sous, j'ai envie d'en avoir une, tiens, plus proche du lac. Ça veut dire que c'est bien, tu es très... Ça veut dire, ça va, tu es très prospère, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Il y a peu de gens qui sont dans des dimensions comme ça. Alors, la première dépense pour un chrétien, c'est la dîme.
Celui
qui coupe sa dîme, il se met dans une situation difficile. Ça, ça fait vraiment partie de quelque chose d'absolument indispensable. Quand tu reçois ton salaire ou ce que tu reçois en général, dans ta mentalité, pense dîme. Pense au royaume de Dieu, pense Seigneur. La deuxième chose, c'est ton loyer.
Ni ahuba,
ou tes remboursements de crédit maison
kuriha ideni jinzu
ou crédits divers.
Change amadeni atandukanye.
Ça, c'est quelque chose qui est absolument indispensable.
Ikini kintu gihambaye cyane.
Je vous dis, j'ai vu beaucoup de gens avec des situations économiques terribles.
Narabonye abantu baca mu bihe bigoye mu butunzi bwabo.
Parce qu'ils avaient un problème.
Je
pense encore à un frère que j'ai vu il y a quelques mois.
Hari amezi make yaheze nahuye n'umwe
n'abantu. Qui avait justement ce schéma, vous savez, du type vraiment avoir un boulot et vivre de sa ressource, de son boulot. Et il est passé par des moments très difficiles pendant plusieurs années. Et il louait une maison. Et une des erreurs qu'il a faites, c'est pendant plusieurs mois de ne pas payer son loyer. Et pourtant, il roulait en voiture, pourtant il faisait tout un tas de choses à côté. Et il avait une maison qui était trop chère parce qu'il était en chômage depuis un bon bout de temps. Et ça, ça vous pose des histoires. Parce que votre propriétaire, que vous soyez au chômage, que vous ayez tous les ennuis du monde, lui, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est son argent. Et au bout d'un moment, si vous ne lui donnez pas, vous aurez des ennuis. Et un toit, c'est quelque chose d'indispensable. S'il y a des dettes, il faut toujours mettre la priorité sur les dettes. Ensuite, bien sûr, il y a des factures indispensables. Comme l'électricité, l'eau, le téléphone, tout ça, c'est indispensable. Parce que si vous êtes coupé d'électricité ou coupé d'eau, ça ne va pas.
Kuko bagukatiye amazi n'amatara aho ni kibazo gikomeye.
Ensuite, bien sûr, la nourriture, c'est indispensable.
Hamagacha haza ifungurwa.
Et là aussi, il faut faire attention. Vous savez, il y a des gens parfois, ils gagnent des salaires corrects et ils se nourrissent très mal. Parce qu'en fait, ils veulent économiser sur la nourriture. Mais fais attention de ne pas économiser sur ta santé. Parce que si tu tombes malade, parce que tu n'as pas une nourriture équilibrée, je dis, il y a des gens comme ça qu'on voit. Ils veulent s'acheter une voiture, alors ils se serrent la ceinture, et c'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils se serrent la ceinture. Et c'est bien de mettre de l'argent de côté. Mais ça
ne
doit pas être au prix de ta santé. Un jour, il va falloir que je vous fasse un cours sur la nutrition. Je vous assure, vraiment, vraiment. C'est important, vous savez, notre santé est quelque chose de fondamental.
Je
ne peux pas servir le Seigneur correctement si tu n'es pas en bonne santé. Tu
ne
peux pas être une bénédiction pour les autres si tu n'es pas en bonne santé. Tu ne peux pas élever tes enfants correctement si tu n'es pas en bonne santé. Au bout d'un moment, ton travail, tu auras des problèmes avec ton travail si tu n'es pas en bonne santé. La santé est quelque chose d'important. Et en partie, la santé vient de la façon dont nous nourrissons. Ensuite, bien sûr, il y a les frais de scolarité pour les enfants. Ça, c'est important, fondamental. Parce que quelqu'un qui ne paye pas l'école pour ses enfants, quand ses enfants sont chassés de l'école, c'est une sacrée honte. Surtout s'il va prier à l'église El Shaddai. Non, mais dans le sens où s'il est chrétien, c'est la honte. C'est la honte. Les impôts aussi. Vous avez quand même des systèmes qui sont pas mal ici au niveau des retraits des impôts directs. Et je trouve que des fois, c'est pas mal foutu. Parce que dans certains pays, on vous demande à la fin de l'année de payer tout, enfin quelques mois après, l'année d'après, de payer tous vos impôts, et ça représente des grosses sommes. Alors maintenant, il y a des choses qui sont nécessaires. Tout ce qui va être déplacement. L'homme, d'une façon naturelle, a un moyen de déplacement, c'est ses pieds et ses chaussures. Ça, c'est le système le plus inférieur et basique. Maintenant, il y a beaucoup mieux, bien sûr. Mais c'est toujours, je dirais, par rapport à nos moyens. Ça,
ce
n'est pas quelque chose qui est absolument indispensable. Des fois, il vaut mieux marcher à pied quelques années et avoir la tête haute et au bout d'un moment vraiment s'en sortir financièrement que d'avoir voulu acheter une voiture qu'on est obligé de laisser à la maison et qui est en train de pourrir parce qu'on n'a pas d'essence et qui est en panne. Alors les habits, bien sûr, nous devons tous être habillés, nous n'avons pas le droit de sortir tout nus. Mais là encore, il y a l'indispensable, le nécessaire, l'utile, l'agréable, et le superflu. Le superflu, c'est la ceinture avec une boussole dessus. Et bien sûr, une fois qu'on a payé tout ça, on va évidemment être obligé de s'équiper dans nos maisons,
etc.
Et là-dedans, évidemment, il va falloir une certaine sagesse. Parce que, je vous le dis souvent, il y a beaucoup de gens qui font tout et n'importe quoi. Parce que, par exemple, on a eu des parents qui ne nous ont jamais rien montré. Et tu rentres dans la vie, tu te maries, tu commences à vivre un peu de ton salaire. Et puis tu t'aperçois que, oui, bien sûr, il y a les dépenses de santé, je les ai oubliées dans le truc, mais ça, la santé aussi. On en a déjà parlé, mais bon. Les soins de santé, ça c'est important. Et en fait, on s'aperçoit que souvent, on ne vit sur aucun budget. La plupart du temps, on vole à vue. Alors, c'est sûr que quand tu es célibataire, voler à vue, ça va à peu près. Quand
tu es
marié, ça va déjà être un peu plus difficile.
Parce
que d'un seul coup, tes charges vont augmenter, tes dépenses vont augmenter. Et souvent, tu ne te rends pas compte combien ça va te coûter. Et puis, viennent les enfants. Et les enfants, ça coûte. Si tu veux leur donner le meilleur, un très bon avenir, les enfants vont te coûter cher. Donc si tu n'as fait aucune planification, tu vas te retrouver avec bien des problèmes, surtout quand tes enfants vont arriver vers les universités. Et surtout si, par exemple, ils sont brillants et que tu veux les envoyer à l'extérieur. Si rien n'est prévu, tu vas avoir du mal. Et souvent, ils vont être frustrés quelque part. Je vous rappelle qu'en tant que chrétien, nous devons donner le meilleur à nos enfants. Sinon, limitez-vous dans le nombre d'enfants, s'il vous plaît. Faites des planifications que vous puissiez donner le meilleur à vos enfants. Mais si c'est pour avoir beaucoup d'enfants et qu'ils soient dans la misère et qu'ils soient inéduqués, franchement, je trouve ça extrêmement dommage. Alors maintenant, on va faire une parenthèse sur les dettes. Et on va parler des dettes parce que les dettes, c'est un gros problème. Et les dettes, c'est tellement facile à faire. Tu arriveras à convaincre ton meilleur ami. Tu vas arriver à convaincre ta famille. Des fois même, il y a des gens qui arrivent à convaincre leur banquier. Et avec des choses tout à fait mensongères, il faut le dire. Et parfois, on se retrouve avec des sacrés problèmes. Et c'est sûr que ça peut être un bon moyen de financer certaines choses. Mais c'est aussi une spirale qui nous amènera vraiment dans bien des ennuis. Et parfois, on se retrouve à la police pour des dettes. Des fois, c'est même la prison pour certaines personnes. Il y en a certains qui ont de l'insomnie pour les dettes. Ils n'arrivent plus à dormir pendant des jours et des jours. Parce qu'ils ont tellement de pression de la part des gens à qui ils doivent de l'argent. Certains même tombent malades à cause de ça. Et ruinent complètement leur vie. Alors il y a quelqu'un qui a dit que rentrer dans des dettes, c'est comme descendre d'une montagne de glace. Et une montagne de glace, vous savez, ça descend tout seul parce que ça glisse. Mais il a dit sortir des dettes, c'est comme vouloir grimper sur cette même montagne par l'autre versant. Et croyez-moi, quand on essaye de grimper sur de la glace, eh ben, c'est très difficile parce que ça glisse. Alors, les dettes, souvent, quand c'est très mal planifié, et la majorité du temps, c'est ce qui se passe, c'est synonyme d'ennui. C'est synonyme aussi d'argent, de toujours penser à l'argent que tu dois rembourser. C'est aussi, bien sûr, des paiements obligatoires à une date précise. En fait, les dettes, c'est une spéculation sur notre avenir. Donc cette spéculation, elle doit être faite intelligemment. Donc parfois faire des dettes pour certaines choses, ça peut aller. Mais la majorité du temps, c'est une chose à complètement éviter dans nos vies. Bien sûr, vous savez, le plus gros achat qu'on va faire dans notre vie, c'est acheter une maison, devenir propriétaire. Les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes achats, c'est souvent les voitures. Ça peut être des meubles, si vous aimez des meubles assez chics. Mais tout ça va être de l'électroménager, ça va être différentes choses que tu vas acheter. Tu as envie de t'équiper. Mais le plus gros achat, ça va bien sûr devenir être propriétaire.
Et
normalement, dans des sociétés où les banques marchent bien, très souvent, on va vous faire des crédits à propos de l'achat d'une maison ou de la construction d'une maison. Et ce qui n'est pas une mauvaise chose. Parce que c'est sûr qu'acheter une maison cash, peu de gens peuvent se permettre.
Et ça permet
quand même d'arriver à devenir propriétaire un certain nombre d'années. Ici, nous savons que le crédit est très limité dans le temps.
Mais je crois
que d'ici quelques années, les choses vont s'allonger de plus en plus. Mais en général, on achète dans pas mal de pays du monde une maison, par exemple, avec un crédit qui dure 15 ans, voire 18 ans.
Quand
l'immobilier reste à des prix abordables. Il y a certains pays comme l'Espagne. Les gens sont devenus tellement fous avec l'immobilier qu'ils sont obligés de payer sur deux ou trois générations.
Ça veut dire
que si vous achetez, vous, parents, une maison, vous allez payer toute votre vie. Vos enfants vont payer aussi toute leur vie. Et peut-être même que vos petits-enfants paieront une partie. C'est épouvantable. Vous voyez, il y a certains pays, c'est devenu comme ça. C'est devenu tellement cher. Mais c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont en train de se casser la figure dans ce genre de pays, parce que les gens ne peuvent plus. Vous savez, ici sur le continent africain, il faut acheter de la terre actuellement. Croyez-moi qu'il va y avoir une très grosse spéculation dans les prochaines décades. Déjà, ça se voit dans toutes les capitales sur le continent ici.
Dans toutes
les capitales. L'immobilier a fait comme ça.
Et
ça va continuer. Après, ça sera les villes secondaires de partout, de tous les pays ici. Après, ça sera la terre cultivable. Donc, la terre est un très bon investissement. Mais parfois, c'est difficile à l'acquérir cash. Alors maintenant, le problème, c'est de savoir au niveau des dettes. C'est comment une personne se comporte. Parce que souvent, quand les gens font des dettes et qu'ils ont des problèmes réguliers, récurrents, qui reviennent régulièrement, chez certaines personnes, cela montre des symptômes d'une maladie du comportement. Parfois, ça montre que ce sont des gens avides, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument acheter quelque chose tout de suite. Par exemple, le mari arrive à la maison, il vient avec une bagnole, la femme fait un grand sourire, elle est toute contente, elle regarde la voiture, et la question qu'elle a, tu l'as payé comment?
Et
alors là, parfois, il est obligé d'avouer ce qu'il vient de faire. Et il va essayer de lui dire, tu sais, c'est une belle voiture, c'était pas cher. Sauf que son épouse va découvrir qu'il s'est rempli de dettes. Et après, ça va créer beaucoup de problèmes. L'impatience. Aussi une pauvre image de soi, des gens qui ont une image mauvaise d'eux-mêmes. Donc, avec des choses extérieures, ils essayent de montrer qu'ils sont quelqu'un.
Il
y a parfois des gens aussi qui manquent de foi, qui ne marchent pas dans les choses du Seigneur au niveau des finances. Donc ils vont chercher à s'endetter tout de suite pour acheter des choses. Et puis il y a souvent aussi un problème de manque de discipline personnelle. Et vous savez, la Bible Bible est très stricte par rapport aux dettes. Parce que la Bible, bon, il y a quelques proverbes, par exemple Proverbe
22.
Ça, c'est l'engagement quand on s'est engagé vis-à-vis de quelqu'un à propos des dettes. Il est dit au Proverbe 22, versets 26 et 27. Vous savez, avec les dettes, il faut être très prudent. Moi, personnellement, je n'aime pas les dettes. Nous l'avons fait pour ce bâtiment parce que c'était une passe obligatoire. Mais personnellement, je n'aime pas les dettes. Parce que les dettes nous lient avec quelqu'un ou avec un établissement bancaire. Les dettes nous obligent à faire certaines choses. C'est une spéculation sur l'avenir. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre très très au sérieux. Et on va montrer, je vais vous donner quelques principes très importants. Parce que souvent c'est le problème que l'on rencontre.
Et
vous savez, les chrétiens souvent vont prier, vont demander la prière pour beaucoup de choses dans lesquelles eux-mêmes se sont mis. C'est pour ça qu'au maximum, apprenons à pratiquer les choses de la parole. Ça nous évitera bien des problèmes. Vous savez, c'est comme certaines églises qui n'enseignent pas la parole de Dieu, qui enseignent simplement les choses basiques. Et les chrétiens ont plein de problèmes partout. Et le pasteur se plaint parce que les chrétiens n'arrêtent pas de solliciter. Le pasteur prie pour moi. Et le pasteur a prié 10 fois pour la personne. Alors que souvent, si le pasteur enseignait correctement la parole, la plupart du temps, les gens trouvent la solution dans la parole. Et ils savent soit comment prier pour eux-mêmes et ils peuvent être touchés d'une façon spéciale. Ou ils évitent bien des problèmes dans lesquels on tombe tellement facilement. La Bible dit au verset 26 de Proverbe 22, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui se portent garants pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi prendrait-on ton lit au-dessous de toi?
Baravuga ngo ntukabe mu gitigiri cy'abishira mu ndahiro canke mu cabigira ishinga y'imyenda mbega ntuzi yuko ni wabura ico wishura bazogutwara nakariri uryamako.
Donc la Bible va être très très sérieuse à propos des dettes et de prendre des dettes. C'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Même si tu as quelqu'un ou une source dans laquelle tu pourrais dire, oh facilement, celui-ci je pourrais lui emprunter des sous parce qu'il a des sous et puis je l'ai tellement aidé quand il était jeune, etc.
Nous allons
voir qu'il y a des choses dans lesquelles il faut être très prudent avant de se décider de faire des dettes. Parce que ça nous emmène dans une spirale. Et il y a vraiment, vraiment, vraiment des difficultés parfois parmi certains chrétiens. Et il vaut mieux qu'on essaye d'éviter ce genre de choses. Regardons dans Habakkuk. Vous regardez, alors pour Habakkuk, prenez Matthieu, le début du Nouveau Testament, vous allez vers l'Ancien Testament,
vous allez
trouver Malachie, Zacharie, vous allez encore un peu derrière, vous allez trouver Agé, Sophonie, et vous avez
Habakkuk.
Alors Habakkuk chapitre 2, au verset 6, au milieu du verset 6,
kumurongo wa gatandatu,
il est dit, c'est bon, tout le monde là, ça va? Il est dit, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui, jusqu'à quand, et qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne vont-ils pas soudain se lever? Ceux qui te secourront ne vont-ils pas s'éveiller? Tu deviendras leur butin, leur proie. Habakkuk chapitre 2, versets 6 et 7, c'est peut-être un décalage, il y a peut-être un verset de décalage. Au milieu du verset 6. Malheur à celui qui accumule.
Bati bazobo nibara abakuma ibitari byabo bagatako bakiremeka amasahu bega bazogeza ryari bega bazojya ntibazobubira ntibazobubira giturumbuka n'abazobajegenyura ntibazokwikangura namwe mugacika inyagano zabo.
Alors, la Bible est claire, l'accumulation des dettes est extrêmement dangereuse. Le pays le plus riche du monde est aussi le pays où il y a le plus de gens endettés dans le monde, ce sont les États-Unis. Il y a des sociétés, quand l'économie marche bien, on vous propose de tout acheter à crédit.
Ça,
ça va venir, d'ici quelques années, ça viendra ici. Vous faites pas d'illusions. Ça commence déjà. Parce que les banquiers ont vu de plus en plus l'intérêt de voir des gens qui achètent à crédit. Parce que le banquier, lui, il pense à une chose. Son client, il est lié avec les dettes. Et lui, il récupère des intérêts. Et c'est normal, une banque fonctionne comme ça. Mais il y en a qui ont développé des systèmes, certaines sociétés qui ont développé des systèmes où tout s'achète à crédit. Vous pouvez rentrer dans la vie jeune marié. Ou vous marchez qu'avec des crédits. Vous avez acheté une maison à crédit. Toutes les facilités. Vous avez acheté la voiture à crédit. Vous avez acheté vos meubles à crédit. Tout est à crédit. C'est tout juste si vous n'avez pas acheté votre lait à crédit. Il marche avec des cartes où vous avez une carte, vous payez comme ça.
Sauf
qu'après, il faut rembourser. Alors, quand tu veux emprunter, tu dois te poser vraiment des questions. D'abord, pourquoi tu veux emprunter? Quelle est la raison pour laquelle tu veux emprunter? Parce que si tu veux emprunter, ça veut dire que tu n'as pas l'argent cash dans ta poche. Ça veut dire que tu dois faire appel à quelqu'un. Ça peut être une personne, un individu, ce que je déconseille à 100%. Ça peut être un établissement financier, on va en parler dans la suite des enseignements. Et tu dois te poser la question, pourquoi tu veux emprunter?
C'est-à-dire
que tu n'as pas été capable de mettre de l'argent de côté. Il faut te poser la question, si tu veux acheter quelque chose, est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que c'est nécessaire, utile, agréable ou superflu ce qu'on a vu? Parce que quelqu'un va te proposer le truc qu'il faut que tu achètes absolument. Est-ce que c'est une dépense simple ou est-ce que c'est quelque chose qui va te permettre d'investir et que ça va te rapporter de l'argent? Par exemple, il y a des gens qui ont un certain potentiel financier. Qui veulent investir dans certains domaines et qui après, bien sûr, ont besoin, par exemple, de travailler avec une banque pour aller beaucoup plus haut, pour avoir un gros potentiel pour réaliser leur projet. Ça, c'est une chose. Mais la plupart des conflits vont parce que les gens empruntent les uns envers les autres. Et souvent, c'est pour des trucs, soit des projets qui sont très mal montés. D'un seul coup, tu te lèves un matin, tu as une idée fantastique. Ça va être un projet à 5 millions.
Tu n'as
jamais produit 10 000 balles. Et tu vas voir quelqu'un, un bon frère en Christ, mon frère, le Seigneur m'a dit que tu devais me prêter de l'argent, menteur. Et tu penses que d'un seul coup, tu vas savoir gérer 5 millions alors que tu n'as pas 10 000 francs dans ta poche. Ça, c'est extrêmement mauvais. Alors, si c'est un investissement, bien sûr, il faut voir les choses, il faut s'asseoir, comme le disait Jésus pour la tour. Parce que les simulations de gains, ça ne se fait pas par la foi. Il y a des gens qui sont ultra optimistes. qui disent, moi, on va mettre de l'argent là-dedans et ça va marcher super. Ou qui sont très naïfs parce qu'ils ont entendu que quelqu'un avait fait quelque chose, alors ils vont le faire. Et ça, ça peut être dangereux. Si vous êtes avec plusieurs personnes, surtout ne faites pas la chose suivante. N'empruntez pas d'argent que vous allez vous mettre vous-même seul. Vous allez être le seul à financer. Avec un groupe de gens qui disent qu'ils ont des idées, qui veulent vous associer pour aller faire un projet. Parce que si vous êtes les seuls à prendre un risque financier, et c'est un risque financier où vous avez emprunté de l'argent, si le bateau coule, croyez-moi, vos amis partiront avant que ça coule. Et vous serez le seul à couler dans le bateau. Et le seul à payer tout ce que vous devez faire. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans les dettes ce soir. Parce qu'on va en parler la prochaine fois. Et on va creuser ce problème de dette. Et je vais vous aider à comprendre, si vous faites des dettes, de faire des choses qui soient vraiment viables. D'être prudent par rapport à ça. Parce qu'il y a trop d'ennuis avec ces histoires. Et parfois, vous savez, il vaut mieux dire, je ne préfère pas emprunter. Je ne suis pas prêt pour ça. Plutôt que de se lancer dans une histoire. Et jeune fille ici, fais très attention si tu as un fiancé qui te tourne autour et qui a une idée géniale avant le mariage avec ton argent. Que celle qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce qu'on a vu plus d'une jeune fille pleurnicher après, parce que le type ne s'est jamais marié, mais il avait bouffé l'argent entre temps. Donc, faisons bien attention à cela, frères et sœurs. Ne soyons pas naïfs. Ok, la prospérité est une réalité. Mais il faut avoir de la sagesse, avoir du bon sens, parce que je vois beaucoup de vies qui sont ruinées, c'est-à-dire qui se retrouvent avec beaucoup de problèmes par un manque de bon sens. Si vous êtes spirituel, vous devez avoir du bon sens. Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment spirituel. Parce que le bon sens est un des fruits de la vraie sagesse de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et on continuera la semaine prochaine sur les finances encore.